Europe 1. Culture Média.
9h30, 11h.
Thomas Hill.
Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Nos deux indispensables du jour nous ont rejoints. Olivier Pouls pour la gastronomie.
Bonjour Thomas.
Salut Olivier. Et Joe Hume pour la musique.
Bien bonjour.
Salut, salut. Et alors j'ai la chance ce matin de recevoir David Hallyday.
Au-delà de nos différences.
Bonjour David,
bonjour à tous.
Merci beaucoup d'être
toujours
avec nous ce matin.
Flottement.
Il en faut.
C'est vrai qu'on se permet quand même de chanter devant David Hallyday.
Oui, c'est lamentable. Mais la voix de Johnny mêlée à la vôtre sur cette chanson mythique qui a 25 ans cette année, c'est très réussi. Vous l'aviez déjà faite hein, sur scène de nombreuses fois ensemble, mais vous l'aviez jamais enregistrée en studio cette chanson.
Non, c'est la première fois qu'il y a un duo, on va dire phonographique, entre nous. C'est vrai qu'on a chanté plein de fois. Donc là, pour moi, ça une, on va dire qu'il y a un fort bagage émotionnel, forcément, dans cette nouvelle version. Ouais.
Comment vous avez fait pour l'enregistrement, du coup, ça s'est passé comment?
Ben, en fait, je l'avais enregistré déjà il y a un an, parce qu'en fait, ma démarche de refaire une petite partie de ces titres,
ouais,
et une grande partie des miens aussi, ça date d'il y a 3 ans. Okay. Et je l'avais enregistré seul, cette chanson, en fait. Et quand j'ai décidé, je me dis, tiens, on l'a tellement fait ensemble, et finalement, il y a un truc assez normal dans le fait que ce soit un duo.
Ouais.
Donc j'ai pris sa voix des masters de l'original, et j'avais laissé ma voix, mais je trouvais que ça collait pas, en fait. Donc je lui ai dit, non, il faut que je réinterprète ce titre, vraiment.
Donc vous l'êtes mis dans le casque, vous aviez Johnny dans l'oreille, c'est ça. Et vous chantiez
Parce qu'on l'interprète, forcément, j'interprète. Ah, oui. Maintenant, quand j'écoute les deux, c'est pas la même chose. Et sur ce titre-là, je l'ai fait comme ça.
On va l'écouter en entier tout à l'heure, et vous pourrez constater que ça a été entièrement aussi réorchestré, modernisé, avec un son plus électro-pop, hein, d'ailleurs, qui est très réussi. Je trouve qu'il y a un petit côté peu Kavinsky dans l'esprit. Je ne sais
si vous êtes
inspiré de Drive, voilà, mais on est un peu dans cet esprit-là.
Pas vraiment, mais peut-être dans les rythmiques, dans le son des rythmiques un peu.
Ouais, le côté Nicole, c'est très réussi. Ouais. Et puis, alors, dans le clip, à l'époque, on vous voyait jouer au billard avec votre père.
Ouais.
Dans celui que vous venez de dévoiler, là, vous jouez avec votre fils, Cameron. Vous êtes un père très différent, d'ailleurs, du père qui était Johnny.
Ouais, d'un certain côté, oui. Et puis, sûrement, j'ai dû choper des trucs, on va dire. On ressemble toujours aux deux, de manière. Mais
dans certains domaines,
oui. Ben, on est une génération différente aussi. Donc, il y a forcément, des traits générationnels qui dominent. Mais... on se ressemble aussi dans d'autres domaines. Hein. Voilà, tu sais, dans la vie, on fait ce qu'on peut, on va dire.
Exactement,
et puis
c'est
après,
vrai. Est-ce que c'est vrai, d'ailleurs, que Johnny, au départ, il n'était pas fan de l'idée de chanter cette chanson, que ça le gênait
100%,
un peu,
en fait, la thématique, je lui avais expliqué d'une façon assez rapide. Je voudrais que tu chantes un petit peu tes absences, de dire que, en fait, c'est pas grave. Je trouvais que c'était important qu'il chante, parce qu'il se le reprochait, d'ailleurs, lui, souvent, d'ailleurs, dans ces moments un petit peu seuls.
De ne pas être assez présent à vos côtés.
Oui, et puis il y a des choses qu'il regrettait et d'autres choses sans doute. Donc au départ, il était un peu réticent. Puis quand je lui ai expliqué un petit peu que c'était ma volonté qu'il le chante, mais je me suis inspiré dans la thématique du texte de Kipling qui se termine, comme on le sait, un jour tu deviendras un homme, mon fils. Et je me suis inspiré de cette thématique-là. Je dis, il faut que tu le chantes, parce que ça fait quand même partie de toi, et c'est quelque chose de fort chez toi. Donc quand je lui ai bien expliqué, il m'a dit ok, c'est bon.
Puis parce que c'est un texte universel aussi qui parle à
tout le monde. Absolument,
et
bien sûr. Ouais. Dans toutes les familles, évidemment, ouais, c'est un thème universel.
Et c'est Johnny qui vous avait proposé de lui faire un album à l'époque, quand vous habitiez encore aux États-Unis. Vous n'aviez pas trop compris, je crois, sa demande, parce qu'il avait le choix parmi de très nombreux compositeurs, et pourquoi il s'adressait à vous particulièrement.
Non, mais j'avais compris sa demande, et moi... c'est vrai que je voulais pas être pris d'un je voulais pas faire un délit d'enthousiasme, on va dire. Je voulais que ce soit réfléchi. Je me suis dit, oulala, moi je savais pas si déjà je pouvais performer. Et puis j'étais retourné vivre aux États-Unis, puis j'étais dans mon groupe là-bas. J'avais un petit peu perdu la connexion avec la musique française à cette époque-là, et j'étais pas sûr de moi, en fait. J'étais pas sûr de pouvoir faire quelque chose de bien pour lui. Donc, c'était un questionnement que j'avais. Et il m'a dit, ben non, écoute, ça va nous permettre de passer un moment ensemble et
oui,
tout. Je dis,
ouais,
c'est vrai, c'est clairement ça. Et cet album, au-delà du succès commercial de cet album, pour moi, c'est vraiment cette symbolique-là, c'est ce qui me reste, en fait. C'est les 6 mois qu'on a passé ensemble à parler de tout, de rien, de musique, à lui proposer des trucs.
Vous n'aviez jamais passé 6 mois ensemble
non.
comme ça,
ah,
même petit, quoi.
Ben, j'ai pas le souvenir de ça, en fait,
ouais.
Parce qu'il partait beaucoup en tournée, que par la force des choses, c'était comme ça. Mais c'était un moment génial, quoi.
Et qui a été en plus couronné de succès, parce que l'arrivée de l'album 100%, ça s'est vendu à 2 millions d'exemplaires. Je crois que c'est le plus grand succès commercial de Johnny Hallyday à ce jour. C'est quand même génial que ce soit en partie grâce à vous, quoi.
Moi, je suis très fier de ça. Je sais qu'il était aussi. Et justement, c'est toujours... dingue de partir d'une idée, en fait, d'arriver à concrétiser une idée et de faire en sorte que les gens aient aimé cet album. C'est toujours un peu quelque chose d'un peu magique, en fait, parce que rien n'est établi, quoi, dans cette vie. On ne sait pas, en fait, on ne sait pas ce vers quoi on va. Et donc, c'était vraiment une très belle surprise. Et ça reste encore des moments... voilà, et quand je rechante toutes ces chansons, évidemment, il y a plein de choses qui me reviennent et qui sont fortes.
Et ces chansons, on va les retrouver sur un album qui sortira le 21 juin, jour de la fête de la musique, qui mêlera 16 titres parmi vos chansons et celles de votre père. Il s'appellera Requiem pour un fou. D'ailleurs, c'est le premier titre issu de votre père que vous avez repris pour cet album. Requiem pour un fou. Dans un instant, j'ai une très belle archive sonore Europe 1 à vous faire écouter. On est le 15 août 1966, au lendemain de votre naissance, David. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Vous recevez David Hallyday.
Et on va dresser votre portrait sonore des petits sons pour mieux vous connaître, David. Voici le premier. Vous êtes né le 14 août 1966, David Hallyday. Et dès le lendemain, Europe 1 recueillait l'émotion de votre père, Johnny. Écoutez.
Alors, Johnny, heureux ?
Ah oui.
Quand vous avez appris ça, comment ça s'est passé ?
Bah, vous savez, moi, je... Je suis sorti de scène, enfin j'étais à côté de Milan en train de faire un gala et puis on m'a téléphoné de Paris pour me dire que j'étais papa d'un garçon. Alors sur le moment j'y croyais pas, enfin j'y croyais mais ça m'a fait une bonne impression et puis j'ai surtout réalisé dans l'avion en train, quand je suis venu surtout à Paris et puis quand je l'ai vu alors c'était formidable. C'est indéfinissable comme impression, c'est formidable et je suis complètement... étonné, fatigué, j'en peux plus enfin.
Et le garçon, il vous ressemble ?
Bah, on dit qu'il me ressemble, il paraît que c'est mon portrait graché. Moi, je trouve qu'il ne me ressemble pas, qu'il ne ressemble pas à Sylvie. Je trouve qu'il ressemble à personne.
Ressemble à un bébé, quoi.
Vous aviez déjà entendu ça ?
C'est plus un fœtus, en fait. C'est... Il ressemble à quoi, je sais pas.
Et alors, on reconnaît sa voix, mais tellement jeune.
Mais
il avait 23 ans,
jeune,
c'est ça
ouais,
il est tellement jeune, c'est un bébé, en fait.
Ouais, ouais.
Est-ce qu'on est prêt à être papa ? En plus, l'époque, c'est un truc de dingue. Tu peux pas être prêt, en fait. C'est impossible.
Oui, puis tous les projecteurs sont braqués sur lui.
De folie, de trucs. C'est un truc de dingue. Ça a dû lui tomber sur la tête. Il a...
Et puis une époque quand même où votre mère, elle est filmée directement juste après avoir accouché. Voilà, il faut présenter le bébé à la télé sur TF1.
Oui, c'est le couple royal, mais en France.
C'est incroyable.
Alors,
c'est assez drôle que Johnny Hallyday dise que vous ne lui ressembliez pas, parce que 15 ans plus tard, il vous chantera ça.
Et aujourd'hui, te voilà, presque un homme est devant moi. Tu as le même sourire, oui, le même que moi. Et pourtant, tu sais, il ne faut pas me ressembler.
Il ne faut pas me ressembler, la chanson que Johnny Hallyday vous a adressée en 81. Vous avez suivi son conseil globalement ou pas ?
Mais tu sais, qu'est-ce qui se passe quand un parent dit ne fais pas ça ?
C'est
que tu le fais en fait.
C'est clair.
Juste pour contrer le.
Ouais.
Je sais pas, moi j'ai jamais réfléchi comme ça en fait. Moi je pense que j'ai toujours eu. On est qui on est et puis on fait avec, quoi. Je veux dire, la vie fait que tu apprends et puis tu évolues aussi. On est tous pareils.
Et puis physiquement, vous commencez à lui ressembler de plus en plus. Hein, moi, j'ai l'impression.
Ah, bon
quand même. Ah oui, oui. Je pense qu'on.
Je pense qu'on tient tous un peu de nos parents quand même.
Ouais, mais ça se voit de plus en plus.
Il n'y a pas de miracle de ce côté-là.
Allez, extrait suivant.
Le roi David a trouvé le chemin de mon cœur. Le roi David a pour moi ouvert les portes du bonheur.
Voilà, le roi David.
La basse, hein,
c'est,
voilà.
La basse, c'est magnifique. C'est, vrai.
Bah ouais, c'est clair.
C'est le son d'une époque, c'est dingue. Quoi.
Bah, bien sûr.
On revient à la basse, basse batterie. Quoi.
Ouais, c'est des sons qui reviennent beaucoup à la mode en fait.
Et le roi David, c'est la chanson que vous dédie votre mère, Sylvie Vartan. Elle représente quoi d'ailleurs cette chanson pour vous?
Je l'entendais tellement quand j'étais petit. Ouais. Je ne me rendais pas très bien compte en fait quand j'étais tout petit. J'étais jeune. Hein.
Et on revient à la royauté, au couple royal.
Mais c'est ça finalement. Ouais.
Et alors elle va faire ses adieux à la scène les 8, 9, 10 novembre, Sylvie Vartan. Ouais. J'ai regardé le 8, vous êtes à Montluçon. Le 10, vous êtes à Lille. Donc est-ce que le 9, vous viendrez faire un petit saut au Palais des Sports pour chanter aux côtés de votre mère?
Oui, quand même.
Ah, c'est magnifique ça.
Je vais m'imposer, je vais venir.
Coucou.
J'ai vu de la lumière. On va faire quelque chose quand même.
Et vous serez vous-même au Dôme de Paris le 12 novembre. Voilà.
On va me chauffer la place.
Ouais, voilà, exactement. Autre archive en 1975. Vous avez 10 ans et Sylvie Vartan parle de vous au micro d'Europe 1.
Quels sont les goûts favoris de votre fils? Qu'aime-t-il le plus? Aller à l'école, jouer au cow-boy, jouer au football. Enfin, je sais pas, les jeux d'enfants.
Disons que mon fils est un petit garçon assez vif et assez turbulent, qui a une passion pour la musique et qui, je pense, est fasciné par tout ce qui est rythmique. Disons qu'il n'a pas l'admiration pour les chanteurs ou les artistes en général. Son admiration va sur les batteurs. Cristallisation sur la batterie en ce moment.
Ah bon, et vous pensez que ce sera un futur musicien?
Mais j'en ai peur.
J'en ai peur. Vous pensez que ce sera un futur musicien, j'en ai peur.
Tu vois, comme quoi, il n'y a pas de miracle, hein, il n'y a pas de hasard dans la vie, quelque part.
Elle est batterie, vraiment l'instrument préféré des parents.
Et des voisins.
Pas toujours.
Et d'ailleurs, à l'âge de 13 ans, en 79, vous avez fait une surprise à votre père. Vous l'avez accompagné à la batterie lors d'un concert au Pavillon de Paris où il fêtait ses 20 ans de carrière. Je crois que cette expérience a été un peu un déclencheur, d'ailleurs, pour vous.
Carrément, oui.
Ouais, ça vous a donné envie de faire de la scène?
Bah oui, en fait, parce que je faisais de la musique, mais dans ma chambre, en fait. J'étais trop petit pour jouer avec des potes encore. Mmh. Puis mais les potes, ils faisaient pas à cet âge-là, ils jouaient aux petites voitures, ils faisaient pas trop ce que, ils étaient pas passionnés par ce qui me passionnait moi. Donc j'étais un peu seul avec mes vinyles et je mettais à fond et j'écoutais, puis je remettais, puis j'essayais de jouer dessus. Et j'ai passé ma jeunesse comme ça. Donc,
et vous avez réitéré l'expérience pour les 50 ans de Johnny Hallyday. C'était au Stade de France où vous l'accompagnez à la batterie sur « Oh, ma jolie Sarah ». Et alors j'invite vraiment nos auditeurs à aller sur YouTube voir ces images incroyables où on vous voit au premier plan, à la batterie, sous le regard tellement fier de votre père. C'est absolument magnifique.
C'est un moment de dingue. Dingue parce qu'on est tous réunis en fait, on est tous au même endroit. Et le fantasme de mon beau-père en fait, à cette époque-là, quand mon père a fait son premier stade en fait, le Parc des Princes, c'était pour ses 50 ans. C'était de faire un album et une tournée derrière tous les trois en fait.
Ouais.
C'est voilà, Jackson 3.
Jackson 3.
Dans un autre style.
Aline,
mais c'était un peu son fantasme et ça sera trop génial et tout. Et puis bon, ça s'est jamais fait. Donc voilà, mais donc c'est parti de ce moment-là. Ouais. En fait, on était tous les trois. Mais pendant les répétitions, je me souviens, on a eu cette discussion. Et c'était fantastique.
Et ça va faire partie des titres que vous allez reprendre, ma jolie
Sarah? Bien sûr.
Bien sûr, bien sûr. Et vous serez en tournée à partir du 2 novembre dans toute la France, la Suisse, la Belgique pour 100 dates. 100 dates, ça va être énorme ça. Et on va en reparler dans un instant. Et puis on va retrouver Joe Hume pour un premier indispensable. On parle de quoi ce matin?
On va parler de nos 30 millions d'amis. On va parler de rock, mais aussi de nos amis les bêtes.
Très bien. Et puis on va jouer aux 3 Oriens avec les auditeurs.
Oui, pour tenter votre chance, c'est simple. Vous vous inscrivez. Alors chaque jour, on joue avant 11h. Il suffit d'envoyer un SMS MEDIA, M-E-D-I-A-S, au 739-21, 2 fois 75 centimes plus coût du SMS. Alors aujourd'hui, vous pourrez dire « Bonjour David Hallyday », ce qui n'arrive pas tous les matins quand même, pour l'être honnête. Vous pourrez tenter votre chance, on va vous donner des indices et vous repartirez
et vous
peut-être avec un magnifique lot de bandes dessinées de la série 13 Mystery. Ouais. La saga,
génial.
Vous savez, qui fête ses 40 ans cette année chez Dargo. Donc
c'est facile, les extraits aujourd'hui, j'ai vu. Hein.
C'est vrai,
donc
c'est facile.
Allez-y, hein. Allez-y. Média 739-21, faites-le tout de suite.
SMS, on vous rappelle et on joue ensemble. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas David Hallyday. Ça, je pense que c'est un CD que j'ai grillé et sur ma chaîne Hi,
ici le premier album True Cool en 1988 qui s'est vendu à 900 000 exemplaires. Ça a été un carton, ça. Vous habitiez aux États-Unis hein, depuis le divorce de vos parents en 80. Et d'ailleurs, je crois que vous avez hésité pour votre nom de scène entre Smet et Hallyday. C'est votre père qui vous a convaincu de garder Hallyday ou...
Non, pas du tout. Non, il y a une petite anecdote. Quand je lui ai fait écouter ma première cassette, à l'époque il y avait des cassettes, c'est le truc que tu rembobinais avec un crayon papier, ouais. Tu sais, et donc je lui ai fait écouter comme ça sans lui dire qui c'était. Et quand il a découvert mon premier titre, d'ailleurs c'était celui-là. La première chose qu'il me dit, c'est, je sais pas, il avait l'air un peu tourmenté par ça. Ouais. Il me dit, mais tu vas t'appeler comment ? Je dis, mais comment ça ? Je n'ai pas compris la question. Jean-Michel.
Il avait peur que vous changiez votre nom ?
Et je ne sais pas s'il avait peur, mais c'était un questionnement.
Ou il avait peur qu'il y ait un deuxième Hallyday.
Je pense qu'on m'a toujours appelé David Hallyday. Ouais, donc je vais rester David Hallyday, puisque ouais. Dès ma naissance, on m'a appelé comme ça. Donc on va pas changer maintenant. Il m'a dit, ah ok, tant mieux.
Tant mieux, très bien.
Écoute, parfait alors, tout va bien.
Allez, on va rester dans la musique avec Joe Hume. Si ce matin, vous aviez, je crois, une question pour notre invité.
Oui, alors une question étonnamment.
Ah, bien.
J'ai lu dans une interview que vous aviez donnée en 2017, je crois, au JDD, que vous ne mangiez plus de viande et que ouais. Vous aviez pour projet d'arrêter également de manger du poisson. Est-ce que c'est toujours le cas? Vous êtes toujours
ouais, absolument, ouais.
Très bien.
Non, vous êtes en train de piquer ma chronique là.
Non, c'est un petit préambule. C'est un petit préambule à la vôtre.
Attention, Olivier Pouls.
Je peux vous faire une playlist après si vous voulez.
Non, moi je vais faire la playlist justement. Ensuite, vous occuperez de la gastronomie. Mais donc, vous faites partie de cette illustre famille des artistes qui ne mangent pas de viande.
Un peu bizarre.
Moi je trouve que au contraire, que je respecte plus au point, parce qu'il y en a quand même un paquet des artistes. Donc, je vous ai proposé une petite playlist, composé une playlist veggie. Et on commence tout de suite, tout simplement, par une légende vivante. Alors, au début des années 70, juste après la séparation des Beatles, Paul McCartney, il se barre avec sa femme Linda, ils achètent une ferme en Écosse et ils vivent complètement autonomes, c'est-à-dire qu'ils se mettent à faire pousser des légumes, à se nourrir eux-mêmes par leurs propres moyens.
Et McCartney, autosuffisance,
et McCartney va même finir par suivre les conseils du tout premier Beatles végétarien qui était George Harrison, qui depuis 10 piges lui disait mais il faut que tu arrêtes de manger de la viande. Il a dit ok. À partir de 75, avec sa famille, il s'arrête complètement et il va même transmettre ses valeurs à ses enfants et à ses petits-enfants. Il y a Stella McCartney qui raconte qu'un jour elle était en train de déjeuner avec son père dans un restaurant londonien et son père, donc Paul McCartney, voit un aquarium avec des homards que les clients pouvaient choisir pour les avoir au menu. Et Paul McCartney les a tous achetés et il les a remis à l'eau. Voilà. Donc,
Ah d'accord, il faut quand même un petit budget pour ce genre d'activisme.
Mais dans une piscine, donc ils sont morts quand même.
Ils n'ont pas supporté le vol de
décolorant.
Mais bon, l'important c'est le geste.
Une autre artiste.
Oui, bien sûr. Alors là, complètement différent, mais une autre artiste végane, c'est Jeanne Masse. En rouge et noir. C'est une playlist éclectique.
Ah oui, oui.
Voilà, donc, on passe à Jeanne Masse. Plus de viande rouge, cela dit, ni noire d'ailleurs, pour Jeanne Masse depuis un petit moment. En 2016, elle a même carrément publié un livre intitulé « La vie est une pomme ». Peut-être que Jacques Chirac aurait aimé ce titre. Laissez-vous tenter par le végétarisme.
Il n'était pas très vegan, Jacques Chirac.
Non, je ne suis pas sûr. C'était édité chez Robert Laffont. Et puis alors, parmi les artistes végétariens qui sont les plus engagés, il y a Morrissey, le chanteur des Smiths. Vous voyez que sa petite voix de fausset, on ne dit pas qu'il est... Eh ben si, en fait, dès qu'il s'agit de véganisme, il est assez rentre-dedans. Le meilleur album des Smiths, il est sorti en 87, il s'intitule Meat is Murder. La viande, c'est du meurtre.
Ah, carrément,
donc voilà, on ne peut pas faire plus simple. Et Morrissey, à plusieurs reprises, il a annulé par exemple sa venue à des festivals parce que ses organisateurs refusaient de retirer les stands qui servaient de la viande, par exemple. Et en 2009, il était en train de chanter, de jouer sur scène au festival Coachella en Californie. Et il a senti d'un coup de la viande grillée pendant qu'il chantait. Il a arrêté le concert en plein milieu. Tout simplement, et il est parti.
C'est pas un tout petit peu excessif, non?
Écoutez, Morrissey n'est pas connu pour faire dans la demi-mesure. Et puis alors, on va terminer cette playlist avec une héroïne, non seulement végétarienne, mais elle aussi activiste, la chanteuse des Pretenders, Madame Chrissy Hynde.
Don't get me wrong.
Mais vous êtes fantastique, vous êtes super.
Ça.
Bien sûr, Don't get me wrong, Chrissy Hynde. c'est pas mal quand c'est Chris Yang aussi.
Moi, je trouvais notre version pas mal, hein, franchement.
Ça se voit. Petite acapella sympa.
Bon, Mick Jagger aussi.
Elle est papote avec Paul McCartney.
Mick Jagger aussi, hein.
Mick Jagger aussi, est végétarien.
Il n'y a pas Mick Jagger aussi.
Mick Jagger est végétarien, ouais, ou alors végétarien, ouais. Mais je crois qu'il est végétarien 6 mois de l'année. Il fait une diète exactement.
Sinon végétarien, c'est moins
con. Et 6 autres mois, je ne vous raconte pas son régime. Mais vous avez peut-être pu croiser Chrissy Hynde dans des manifestations en France. Par exemple, en 2004, elle a balancé du sang sur des vitrines du KFC. Et elle est membre de l'association PETA. Chaque Thanksgiving, elle a des pancartes « Ne tuez pas les dindes ». Et elle ne mange bien entendu pas la moindre... J'allais dire goutte de viande,
talent, c'est j'ai adoré Christian, quel
magnifique,
talent,
c'est magnifique.
Fantastique,
incroyable.
Merci Joe, mais qu'on retrouve désormais du vendredi au dimanche de 21h à 22h sur Europe 1. Après le journal permanent, nous serons avec un invité inattendu, le fils caché d'une des plus grandes stars de la chanson française. Je ne vous en dis pas plus, à tout de suite sur Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin. Thomas, vous recevez David Hallyday, de retour avec une nouvelle version de 100%, nouvel album le 21 juin et surtout une grande tournée Requiem Tour. Vous serez le 12 novembre au Dôme de Paris, il y a de très nombreuses dates, elle est très longue cette tournée.
100 dates partout, en France, en Belgique et en Suisse. Et puis alors nous recevons ce matin, David, le fils caché d'une des plus grandes stars de la chanson française. Voici, cher David Hallyday, David Hallyda.
Ah yes. Je suis très heureux de te rencontrer, David. Nous partageons notre prénom, mais aussi la célébrité de nos parents, l'amour de la musique et notre passion pour la Formule 1.
Ah, vous êtes aussi passionné par la Formule 1.
Oui,
j'ai fait
tous leurs hôtels.
Il était temps.
Exactement, oui, mais je suis aussi fan de la Formule 1 parce que j'ai fait tous leurs hôtels. Vraiment.
Ah.
Et il y en a 172. Alors, vous vous dites peut-être que c'est un loisir moins risqué que la voiture de course, mais c'est parce que vous n'avez jamais essayé leur petit déjeuner. Hein. Une fois, j'ai retrouvé un poil dans mes œufs brouillés.
Ah, c'est le risque. Ouais.
Et encore plus bizarre, j'ai aussi retrouvé des œufs brouillés dans mes poils.
Ah oui. Ça, c'était plus étonnant.
Ouais,
ça fait envie, en tout cas. Et alors, vous faites aussi de la musique ?
Oui. Ah, alors, moi, je compose de la musique originale pour des publicités.
Ah, intéressant, ça.
Je sais bien que tu l'adores. Tabasco, Tabasco, même si t'as fini la gastro. Tabasco, Tabasco, tu en redemandes encore. Tabasco, Tabasco, même si tu pètes quand tu dors.
C'est très joli.
Ah, ça va marcher.
Oui.
Ça me rappelle une autre chanson.
Un tube,
ça me rappelle quelque chose.
Ah, oui. Si ça vous rappelle quelque chose, c'est normal. C'est à ça qu'on reconnaît les grands chefs d'œuvre. On a l'impression de les avoir déjà entendus alors que c'est la première fois. Tout ça, David, c'est marrant parce qu'on a un schéma familial très similaire. Moi aussi, j'ai une demi-sœur.
Ah oui, elle s'appelle comment ?
Amanda Hallyda. Alors, je sais ce que vous vous dites. Hein, David Hallyda, Amanda Hallyda, c'est pas très discret comme nom pour des enfants cachés. Hein. Mais c'est Orlando qui a choisi. Et comme vous le savez, Orlando, il est aussi discret qu'un char de la Gay Pride à un enterrement.
En effet. Et alors, vous, est-ce qu'avec votre sœur, vous allez faire un duo comme David Hallyday avec Laura Smet ?
Non, pas du tout. Ma sœur n'est pas une artiste. Hein, mais elle a aussi un métier en rapport direct avec notre mère Dalida, puisqu'elle est ophtalmologue. Oui, elle est... spécialisée dans la rééducation du strabisme. Elle a eu beaucoup de clients célèbres. Hein. Elle s'est occupée de Maître Gims, Gilbert Montagnier, les Daft Punk.
Ah ouais, dis donc, du coup, pas évident de savoir si ça a marché. Hein.
Ouais.
Et on peut entendre d'autres de vos pubs en ce moment ou pas ?
Oui, bien sûr. J'en ai fait une récemment pour la filière porcine. Alors, Jumbo Huerta, tu me donnes tant de gras, du diabète et cholestérol dans le foie.
On a un coup de fil de la régie publicitaire qui est ravie, merci. Et puis David Hallyda, en fait, vous plagiez toutes les chansons de votre mère, hein, j'ai l'impression, dans vos pubs, c'est un peu ça l'idée.
Non, je vous arrête tout de suite, Thomas, je ne plagie pas que les chansons de ma mère.
Ah, d'accord.
Je plagie aussi celles des autres. Moi j'adore les ravioles de Royan, 2,50€ chez Auchan, c'est très enthousiasmant. Oh là, pitié David, ne me demande pas d'argent pour la chanson que je t'ai piquée, c'est un bon investissement. Et je peux te filer 20%.
Oh, magnifique.
Bravo.
Ah ouais. Merci David Hallyda. On vous laisse voir tout ça avec la SACEM. Et merci Cécile Marx qui est en spectacle le 11 mai au Petit Palais des Glaces à 19h30. bluffante cette David Hallyday.
Ouais, mais je m'attendais pas à ce qu'elle soit comme ça complètement.
Je suis juste un peu déçu de pas avoir pu loucher, sinon je peux pas lire la chronique, mais sinon j'aurais bien tout fait.
Allez, c'est l'heure de jouer maintenant avec les auditeurs. On va jouer aux trois ou rien.
Oui, ce matin vous jouez pour tenter de remporter un lot de BD, la bande dessinée 13 Mystery qui fête cette année ses 40 ans aux éditions d'Argo. C'est une saga culte et dans le lot qu'on va vous envoyer, il y aura même Traquenard et Sentiment. C'est le tome 14, hein. C'est l'avant-dernier
c'est
tome.
C'est le 14-13.
Traquenard et Sentiment, vous les avez lus, c'est bien. Hein. Ah, vous validez 13.
Bien sûr. Il y a des traquenards et des sentiments.
Il y en a énormément. Ouais,
voilà, c'est bien résumé. Ouais.
Merci pour ce résumé et cette analyse. Et nous accueillons Olivier au téléphone. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour.
Merci
d'être avec
bonjour.
Nous. Je vous présente David Hallyday, que
bonjour,
vous ne connaissez
Olivier.
Pas, j'imagine.
Enchanté, enchanté.
Enchanté aussi.
vous êtes de quel coin, Olivier?
Ah, je suis de Corrèze.
Corrèze.
Bon, je suis pas né en Corrèze, hein. ça s'entend avec l'accent.
D'accord. Ah, vous êtes né d'où? Vous êtes d'où?
Ah, bah, je suis de Belgique, moi.
Oh,
ah,
c'est ça! C'est un camarade.
Restez pour la chronique.
Un camarade d'Olivier Pouls.
Écoutez la chronique de
voilà,
Pouls,
comme
ça va vous plaire.
Comme Philippe Smith.
Comme Jean-Philippe Smith aussi.
Ah, bah, bien sûr. Bon, alors,
oui.
Olivier, j'ai trois extraits sonores pour vous ce matin. Vous allez entendre à la suite une chanteuse, un extrait de film et un générique télé. Écoutez bien.
Oh!
Cornichon
A!
Ah, konnichiwa!
Konnichiwa!
Qu'est-ce qu'il dit là?
Bah, la même chose que vous, chef.
Hein. Ah, putain, on n'est pas rendu.
Wow. Ah! Ça, je suis sûr que vous l'avez reconnu le dernier, Olivier.
Bon.
Non?
Nicoletta, voilà.
Oui. Vous avez reconnu Nicoletta.
Nicoletta, c'est bon.
Qui sera avec nous lundi, voilà. D'ailleurs.
Oui.
Alors après...
Le
Konnichiwa.
Dernier, là, le générique télé, vous ne l'avez pas reconnu. Je vois sur votre fiche que vous êtes passionné de moto. Alors, franchement...
Alors, il y a la
on
moto...
Roues,
ah, oui,
et
oui,
on
oui,
est...
oui, bonjour, bonjour. Bonjour.
Bonjour.
Soit
l'automoto,
ou alors...
Non. L'autre.
Sur M6. Celle sur M6, ouais.
Sur une GTD, le T, c'est quoi?
C'est
un nom de poisson, c'est un nom de poisson.
J'ai l'impression qu'il est en train de faire plein de trucs en même temps.
Mais oui, qu'est-ce que vous faites? Vous saluez le facteur?
Non, c'est bon, si tout va bien. Là, c'est parce que...
Vous recevez un colis, vous qui...
Vite, il n'y a qu'une minute.
Alors,
le T de GTD,
alors,
c'est quoi?
De GT même, GT. Ah. Le T, c'est quoi?
GP Moto.
Non,
le T
de GT.
Non, le T de GT, c'est pas ça. Non, c'est le grand tourisme.
Ouais.
Ah, zut. Alors,
le T,
quand ça va très vite.
Quand ça va vite.
Allez, je mets le... Je mets le...
C'est le nom d'un poisson.
Wow. Oh, c'est trop tard. C'est trop tard. Wow. C'était le Turbo.
Oui, c'est trop tard.
Turbo. Turbo. C'est, vous la, je vous la
Dominique
connaissez.
Chapatte.
Dominique
ah, oui.
Chapatte.
Ouais,
bien sûr.
Ouais.
Et le film qu'on cherchait, c'était Taxi.
Ouais, c'était Taxi.
Taxi, c'était Konnichiwa. Plus dur peut-être à retrouver.
Ah, oui.
Et oui. Oh, je les adore, les Belges.
Ouais, c'est les meilleurs.
Je passerai bien toute l'émission avec vous. Il faut nous rappeler, Olivier. Il hein. Faut retenter votre chance.
Oui, oui, je vais vous rappeler, certainement. Très bonne émission. C'est le top, là.
Et bonne journée en Corrèze, Olivier.
Et restez avec nous parce que dans un instant, il y a Olivier Pouls qui va nous parler de frites. On revient tout de suite sur Europe 1.
Restez belge.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, vous recevez David Hallyday.
Tu ne m'as pas laissé le temps de
te dire. Ah, celle-là, on n'y va pas. Hein.
Et tout ce que tu
veux. Une petite note un peu compliquée quand même.
Ça monte, hein, ça monte.
Tu ne m'as pas laissé le temps.
Une petite note tenue. Voilà, voilà, il faut y aller. Quoi.
C'est votre gros tube, ça. Hein. Plus d'un million d'exemplaires vendus en 98, 10 de platine pour l'album Un Paradis, Un Enfer. Vous la reprenez d'ailleurs hein, sur Requiem pour un fou,
oui, oui.
Avec une nouvelle version.
Ouais.
Ouais,
ouais.
Sans la note.
Sans la note. C'est bon, ça va.
À l'époque, vous avez écrit Tu ne m'as pas laissé le temps pour votre grand-père maternel, hein, c'est ça?
Ouais, c'est ça, oui.
J'imagine que quand vous la chantez aujourd'hui, vous pensez aussi forcément un petit peu à votre père.
Oui, oui, oui. En fait, j'ai tellement chanté cette chanson, en fait. Tu sais, il y a une espèce de truc un peu bizarre qui s'installe. Je n'aurais pas un petit peu faussé les... Il y a un truc un peu mécanique. Mmh. Tu sais, quand
mais
tu
oui.
chantes,
c'est le risque,
10,
ouais.
10 millions de fois. Mais c'est vrai qu'elle fait écho forcément à... Il y a un thème encore universel. Je veux dire, il faut dire je t'aime aux gens qu'on aime pendant qu'il est encore temps. Enfin, c'est un petit peu...
Ouais.
Et j'ai toujours eu cette notion du temps qui passait vite, même petit. C'est un peu bizarre pour un gamin. Et donc, ouais, elle fait écho forcément encore aujourd'hui. Ouais.
Et ça fait partie.
Surtout la nouvelle version, je la préfère forcément, ouais. Puisque bah, je l'ai recommencé à 5 fois quand même. Je m'y suis surpris à 5 fois.
Ah, quand même.
Ouais, parce que c'est un petit peu la difficulté de refaire des titres, c'est de garder la première émotion, de l'émotion de départ en fait. Mmh. Proposer un 2.0, mais c'est
et
bien, mais il faut qu'il y ait toujours l'émotion dedans et cette espèce de truc d'équilibriste qu'il faut avoir.
Allez, c'est le grand moment. Je ne vis que pour cet instant où nous évoquons la gastronomie avec Olivier Pouls. Et aujourd'hui, vous faites un petit clin d'œil à des origines certes un peu lointaines de notre invité David Hallyday.
Bah oui, David, vous et moi. Alors, on ne peut pas dire qu'on se ressemble 100%, non. Mais tout de même 25%, ce qui n'est pas si mal, parce qu'en effet, un quart de sang belge coule dans vos veines, si je ne me trompe. Alors, dans les miennes, c'est 50%. Pur belge, 50% vin de Bourgogne, ce qui est pas mal. Et si un peu de belgitude continue à vous habiter, nul doute que vous en passez quand même pour le fleuron de notre gastronomie, les frites.
Des frites. Absolument. Des frites.
Bah oui.
Et les frites, Olivier, elles sont pas françaises plutôt,
non? Bah écoutez, ça me fait un peu de mal de le dire, mais vous avez raison. Et oui, parce que le débat est définitivement tranché. Les frites sont bien nées à Paris à la fin du 18e siècle.
Mais
bon. C'est quand même en Belgique, grâce à une famille de forains, qu'elles ont véritablement acquis leur lettre de noblesse. En Belgique, on est frite, on vit frite, on pense frite. Mais attention, pas n'importe quelle frite, une fois. Hein.
Les fameuses frites au gras de bœuf, c'est ça?
Eh bien, bingo, mon gourmand. Et c'est ça qui fait toute la différence. Même si je sais qu'en tant que vegan, aujourd'hui, j'imagine que vous préférez les frites à l'huile végétale. Ouais. Mais alors, pourquoi fait-on les frites au gras de bœuf chez nous d'ailleurs? Bien, tout simplement parce que nous les Belges, nous avons conservé la tradition, la recette originale. En fait, les huiles de cuisson raffinées qu'on connaît aujourd'hui, elles n'existaient pas au 19e siècle. Et pour frire, on utilisait de la graisse animale, de la graisse de bœuf ou de cheval.
Mais ça donne
d'ailleurs.
Ça donne un goût différent.
Mais évidemment, ça donne un goût, une texture aussi. Elles sont peut-être un peu plus molles, on en parlait tout à l'heure. Et puis si le goût, évidemment, vous l'avez dit, fait toute la différence, bah, d'un point de vue diététique, là par contre, c'est le carton rouge, parce que le gras de bœuf, eh ben oui, ça contient beaucoup plus de gras saturé que les huiles végétales.
Ah oui.
Et donc, c'est pas terrible pour nos artères.
Bon, si malgré tout, on veut réussir chez soi des frites à la belge exceptionnelles, comment on fait?
Alors voilà les 5 règles à suivre, et en cadeau, je vous les fais avec l'accent belge.
Ah,
Règle numéro 1, hein, des binches tu choisiras, ça c'est la variété parfaite pour les frites.
C'est des très grosses.
Des bonnes pommes de terre.
Bonnes grosses.
Règle numéro 2, les pommes de terre épluchées dans l'eau tu mettras. Parce que ça permet d'enlever l'amidon et d'éviter d'avoir des frites molles.
D'accord.
Règle numéro 3, une première cuisson de 8 minutes, on dit 8 en Belgique, hein, 8 minutes à 150 degrés. Alors, dans le gras de bœuf, éventuellement, tu feras. Et ça s'appelle blanchir les frites et ça permet de les cuire à cœur.
D'accord.
Quatrième règle, les laisser bien refroidir, tu devras. Alors ça, c'est le secret pour qu'elles croustillent. Il faut au moins une demi-heure entre les deux bains que la température redescende. Ça, c'est très important.
Ouais, c'est technique hein, de faire des frites.
En amont, surtout, quoi.
Cinquième et dernière règle, un deuxième bain, donc tu leur donneras 180 degrés cette fois. Et c'est là qu'elles vont bien croustiller. Et là, c'est à peu près 3 minutes. Il faut savoir que sous l'effet d'une différence de pression qui est entre l'intérieur de la frite et le bain de cuisson, c'est à ce moment-là qu'elle expulse le gras qu'elle emmagasine. Ce qui fait qu'en fait, les frites, c'est moins gras en réalité que ce qu'on
bien
pense.
Sûr,
oui, c'est léger même.
Bien sûr.
Il va vous rendre un truc léger.
Alors, petite règle, dès qu'elles sont cuites, vous les secouez bien et puis vous les laissez replonger et s'éponger sur un papier absorbant. Il n'y a plus qu'à les manger. Et moi, c'est avec la sauce andalouse.
C'est important de bien les secouer, effectivement. Ouais. Sinon, elles risquent d'être trop molles. Ouais. Merci Olivier Pouls qu'on retrouve autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte le samedi de 11h à 12h30.
Et ce sont déjà les dernières minutes de Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill et votre invité Thomas ce matin, David Hallyday.
Tout se donner. Bien sûr.
Ouais. C'est quoi
C'était vous la doublure alors.
On vous rappellera, monsieur Hill.
Stade de France, vous vous souvenez pas, c'est ça, oui. En backup. Vivre pour le meilleur, c'est l'un des titres.
Sur le banc.
Sur le banc, ouais, au premier rang, quoi. ce sera aussi sur votre album, évidemment. Vous allez reprendre Vivre pour le meilleur. Vous allez reprendre Diego. Vous allez reprendre Laura également. Tous ces titres-là. Et je me suis demandé hier c'est quand même un challenge, évidemment, de reprendre tous ces titres-là. Est-ce que ça vous a pas fait peur? Est-ce que vous avez pas eu peur même de souffrir de la comparaison avec Johnny Hallyday? J'imagine que c'est une question que vous êtes posée, David.
Non, non, pas du tout. Non.
Pas du tout.
Non, puis j'ai un peu l'habitude, c'est depuis le temps. C'est...
Depuis non, le lendemain
je pense, qu'en fait, quand tu es noyé dans un challenge, on va dire, musical, moi, c'est ce qui me plaît, parce que finalement, en fait, chez moi, et je pense que l'art fonctionne comme ça, l'inconfort, c'est quelque chose d'hyper important, parce que c'est là que tu vas puiser, c'est là qu'il ressort des choses assez intéressantes, finalement, qui ne ressortent pas dans le confort nécessairement. Donc, se mettre dans une position qui est assez inconfortable, parce que c'est quand même un sacré truc à faire. Et finalement, ce qui était intéressant, c'est de voir si je pouvais l'adapter à moi, en fait. Mmh. Comme ces chansons, y en a certaines que j'ai composées, donc elles font partie de moi, forcément. Mais les autres que je n'ai pas composées, en fait, c'est ce qui m'intéressait. C'est l'envie, c'est derrière l'amour, c'est toutes ces chansons-là. En fait, c'est de voir comment je pouvais me les approprier et faire en sorte que... Parce qu'elles font partie...
De votre histoire,
histoire et de mon ADN quelque part aussi.
Comment vous avez fait la liste d'ailleurs? Comment vous les avez sélectionnées, ces 16 titres?
En fait, j'ai pris celles qui me plaisaient vraiment beaucoup. Il y a toute une période de mon père que j'aime beaucoup, c'est forcément les années 70. Une partie des années 80 avec les deux albums, les trois albums qui sont succédés, les deux albums de Michel Berger et de Jean-Jacques Goldman derrière, c'est des albums incroyables. Un peu moins dans les années, fin 90.
Ouais.
C'était un peu moins mon truc. Donc j'ai pris vraiment dans ces trois périodes-là ce qui me plaisait le plus, celle que j'entendais quand j'étais petit à travers les murs à la maison. Et c'était un beau challenge à faire. Ouais,
On a hâte en tout cas de découvrir le résultat. Ce sera le 21 juin, la sortie de cet album Requiem pour un fou. Et pour l'instant, vous avez donc cette reprise de 100% qui est très, très réussie. Vous serez en tournée, David Hallyday, à partir du 2 novembre dans toute la France, la Suisse, la Belgique pour 100 dates. Et puis, on rappelle votre livre aussi, nouvel album, c'est aux éditions du Cherche Midi. Merci beaucoup d'être
Merci
venu
à vous,
ce matin
sur Europe 1.
Merci, David Hallyday. Lundi, à votre place dans Culture Média, on va encore parler chansons françaises. Ouais. Nous accueillerons à l'occasion de la sortie de son intégrale la grande Nicoletta.
Et puis dans la première partie, nous serons avec le médecin légiste, archéologue, anthropologue Philippe Charlier pour un nouveau numéro de l'Histoire au scalpel consacré à Napoléon Bonaparte.
Et vous pouvez réagir dès maintenant en laissant vos questions, vos réactions à nos invités de lundi 01 80 20 39 21.
Et bonjour Pascal.
Ça veut dire quoi l'Histoire au scalpel? C'est quoi l'Histoire au scalpel?
C'est le titre de cette série parce qu'il est médecin légiste. Philippe Charlier.
Vous savez que dans certains tableaux, par exemple, on dit qu'il y a du sang de certains rois sur certains tableaux, lui il les a étudiés, il est allé loin pour vous dire s'il y a vraiment du sang sur ces tableaux-là.
Il est exceptionnel.
C'est passionnant.
Du 100%?
Vous travaillez vos textes avant?
C'est l'inspiration.
Vous êtes fulgurante comme ça.
Non, je crois que l'important dans la vie, ce sont les rencontres. Je pense que c'est ça qui est important. Enfin, je ne veux pas dire, mais je crois vraiment que.
C'est pas tout à fait ça, mais.
Bon, c'est pas tout à fait ça.
Il chante la ville, danse la ville.
Il chante. Bon, ça va, c'était bien, vous étiez.
Ah, c'était formidable.
Cet week-end.
Avec David Hallyday, c'est un bonheur.
Ah, je suis d'accord avec vous.
Ah oui.
Et alors, vous allez passer un bon week-end? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Vous allez trouver vos enfants? Il fait froid, il fait chaud.
Oui,
vous allez
il va pleuvoir tout le week-end.
Anissa a dit qu'il allait pleuvoir ce matin.
Il va pleuvoir tout le week-end.
Même à Paris?
Oui, même à Paris.
Surtout à Paris demain.
Surtout à Paris demain.
Mais oui, ça c'est vrai.
Bon, on fera un petit Scrabble en famille.
Scrabble.
Un Scrabble dans la case.
Un mille bornes.
Ouais, un mille bornes. On va s'éclater.
Ah ben bon. Non, mais ça va être bien. On va aller au théâtre, au cinéma, tout.
Bah bien sûr.
Bon, bah écoutez, c'est bien, hein, les amis.
Vous allez parler de quoi, vous?
Ce qu'on va dire. Parce que comment il a dit, monsieur Pavlenko, ce matin?
On parle de tout et de rien.
On parle de tout et de rien. Mais je trouve que c'est pas mal, c'est presque un titre d'émission.
Juste un mot, Pascal.
Oui.
Je vous sentais très incertain sur l'euro million. J'ai vérifié, c'est 155 millions ce soir à l'euro million.
155. Qu'est-ce que vous feriez, vous, par exemple, si vous gagniez 155 millions?
Je vous donne
millions.
La moitié.
Non, mais sérieusement,
je rachète Pascal Pro.
Non, mais bon, ça c'est drôle.
Et je le mets sur France Bleu.
Rires.
Voilà, voilà l'argent bien dépensé.
Moi, je sais ce que je fais, par exemple.
Ah, vous feriez quoi?
Bah, d'abord, je continue de travailler parce que j'aime bien ça, mais je pense que je produirais. Je ferais
des films.
Des films. Parce que tu vas pas aller te dorer la pilule toute ta vie. C'est une fois que t'es voilà, ça va.
C'est pas la première fois qu'on l'entend dire ça.
Ah non, mais il faut faire quelque chose.
Non, mais c'est dur de trouver ce qu'on pourrait faire et de tout cet argent.
Mais justement, si t'aimes un peu les arts, bah, tu investis, tu fais des films, tu vas voir des jeunes chanteurs ou des jeunes que sais-je, et puis tu as un projet professionnel.
Alors, pour l'instant, on ne l'a pas, cet argent, donc il faut vraiment passer la pub à l'heure, sinon on va avoir des problèmes d'argent.
Je suis d'accord avec vous. Ou alors, je rachèterai le FC Sochaux et je vous en ferai cadeau.
Oh là là.
Bon, 150 millions, c'est beaucoup trop.
Merci, bonne émission, bonne journée.
Bon, à lundi, les amis.